Racines du ciel, une émission de Lélie Anvard, avec la participation de Frédéric Lenoir, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Thierry Beauchamp, avec aujourd'hui à la prise de son Claude Niort. La semaine dernière, je vous avais annoncé une émission avec François Angelier sur Léon Blois pour ce dimanche, mais au regard des événements tragiques qui ont eu lieu le vendredi 13 novembre et qui nous ont tous endeuillés, nous avons eu envie de faire une émission que nous dédierions à tous les innocents qui sont morts en ce sombre jour de novembre. Aux Racines du ciel, nous essayons chaque semaine de vous parler de ce qui dépasse infiniment l'animal humain et qui nous permet de nous hisser à l'humanité véritable, à ce qui fait de nous des êtres humains dignes de ce nom. Comme le disait le poète persan Saadi au XIIIe siècle, les descendants d'Adam sont membres d'un seul corps et par leur création humain de même essence. Que le destin un jour fasse souffrir un des membres, alors les autres membres en seront infligés. Si tu ne souffres pas de la souffrance des autres, tu ne mérites pas d'être appelé humain. Au nom donc de cette souffrance que nous partageons tous, je n'ai pas eu en même temps envie de faire une émission sur le mal, sur son pourquoi, sur son comment, ni même une émission sur le deuil et la douleur, mais une émission sur l'âme et peut-être, pourquoi pas, sur son immortalité. Parce que je voudrais partager avec vous cette espérance que ceux qui sont morts sont encore en vie, sous une forme ou sous une autre. Quand j'ai vu à la télévision tous ces visages, tous ces regards qui se sont fermés, ils m'ont tous paru beaux, et j'ai pensé à ce poème de Sully Prudhomme que je leur dédie, ce qui est ma façon à moi de leur rendre hommage. Je n'ai pour cela que les mots du poète. Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux, des yeux sans nombre ont vu l'aurore. Ils dorment au fond des tombeaux, et le soleil se lève encore. Les nuits plus douces que les jours ont enchanté des yeux sans nombre. Les étoiles brillent toujours, et les yeux se sont remplis d'ombre. Oh, qu'ils aient perdu le regard, non, non, cela n'est pas possible. Ils se sont tournés quelque part vers ce qu'on nomme l'invisible. Et comme les astres penchants nous quittent, mais au ciel demeurent, les prunelles ont leur couchant, mais il n'est pas vrai qu'elles meurent. Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux, ouverts à quelque immense aurore, de l'autre côté des tombeaux, les yeux qu'on ferme voient encore. Pour parler de l'âme, de sa nature spirituelle et de l'espérance de notre immortalité, nous sommes en compagnie aujourd'hui de François De Witte et de Patrick Tellier. Patrick Tellier, vous êtes médecin et vous avez été choisi en 1998 pour tenir le poste de médecin permanent du bureau médical des sanctuaires de Lourdes. Je ne savais même pas que ce poste existait. En tout cas, vous avez gardé ce poste plusieurs années jusqu'à votre retraite. Vous êtes donc à la fois un homme de science et, vous l'assumez pleinement, un homme de foi, un catholique fervent.
D'accord.
Vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur les miracles de Lourdes, mais oui. Ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est que vous avez aussi étudié le phénomène des expériences de mort imminente, comme on dit en français les EMI, dont vous parlez dans votre dernier ouvrage, Paris aux éditions Arthège, « Expérience de mort imminente, un signe du ciel qui nous ouvre à la vie invisible ». François De Witte, vous êtes vous aussi un homme de science, puisque vous êtes un ancien élève de l'école polytechnique, mais rien apparemment dans votre carrière ne vous prédestinait à écrire sur l'âme, puisque vous vous êtes spécialisé dans la presse financière, à la fois la presse écrite et la radio. Néanmoins, depuis votre plus jeune âge, vous vous êtes intéressé à ce qu'on appelle les phénomènes paranormaux et à la spiritualité. Et puis, de fil en aiguille, vous en êtes arrivé à mener une longue enquête sur la question de l'âme, son histoire et aussi toutes les recherches actuelles sur ces questions, en particulier les expériences de mort imminente. Tout ce travail a abouti à la rédaction d'un livre, « La preuve par l'âme, un polytechnicien démontre notre immortalité » aux éditions Trédaniel. Je ne suis pas sûre que le titre ne soit pas un tout petit peu trop marketing à mon goût, mais enfin, voilà.
Le choix de l'éditeur.
La preuve de l'âme. Voilà. Dans ce livre, en tout cas, vous mêlez les expériences personnelles et des faits rapportés par des scientifiques, ou d'ailleurs des moins scientifiques, en tout cas des faits qui vous semblent étayer votre conception de l'âme. Alors avant de parler de ces signes rationnels ou de témoignages abondants que vous rapportez dans vos livres, et l'un et l'autre, je voudrais d'abord vous demander à chacun comment, avec ce bagage et ces convictions qui sont les vôtres, comment vous définiriez l'âme. Et puis après, on verra l'âme en tant que elle nous anime quand nous sommes vivants. Puis après, on verra ce que c'est que l'âme, si tant est qu'il y ait une différence quand nous parlons des défunts. Patrick Tellier.
Bien, vous avez raison. L'âme est avant tout ce qui nous anime quand nous sommes vivants. C'est ça qu'il faut retenir. Mais la différence, les animaux ont une âme. Sinon, ils ne pourraient pas vivre. Donc l'âme est nécessaire pour la vie. Ce qui fait la différence entre l'âme animale et l'âme humaine, c'est que l'âme humaine a une dimension spirituelle. Dans la Bible, il est dit « l'homme a été créé à l'image de Dieu ». Et cette image de Dieu se reflète donc au niveau de son âme, qui fait que l'âme vitale est également une âme spirituelle. Et de fait, elle est immatérielle. La science ne peut pas la cerner, comme d'ailleurs la science ne peut pas cerner la vie. Elle ne peut cerner que le vivant ou des vestiges de vivant, mais la vie, la science ne peut pas la cerner. L'âme, c'est pareil, elle ne peut pas la cerner. Et pourtant, l'âme est là pour nous maintenir en vie de notre conception jusqu'à notre mort naturelle. Et après, est-ce qu'elle disparaît? Eh bien, justement, non. Parce qu'elle a cette dimension spirituelle qui fait qu'elle va se poursuivre et réanimer un jour le corps.
François De Witte.
Ben je suis d'abord je suis chrétien moi aussi, mais peut-être un peu disons iconoclaste parce que je ne crois pas à tout ce qui m'est enseigné et on peut peut-être éventuellement évoquer ce point de vue, mais justement j'ai pas tout à fait la même définition de l'âme que celle du docteur Tellier parce que je pense moi que la phrase qui m'a beaucoup guidé pendant toute l'écriture de mon livre, c'est celle de Teilhard de Chardin qui dit « Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une aventure spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une aventure humaine ». Donc, je suis tout à fait d'accord que l'âme peut donner sa forme au corps, mais surtout l'âme préexiste au corps. C'est ma vision des choses et c'est celle d'ailleurs de Platon. Ce qui est intéressant, c'est que la vision chrétienne classique, celle qui est dans le catéchisme, est une vision aristotélicienne. Aristote était l'élève de Platon. Bon, ils sont un peu fâchés, comme vous le savez, et ils n'ont pas du tout la même vision des choses. Et justement, je n'aime pas beaucoup la vision aristotélicienne parce que c'est l'idée que nous naissons avec une âme qui donne sa forme au corps. Et pour Aristote, lorsqu'on meurt, l'âme disparaît, bien entendu. Alors le christianisme a repris la vision aristotélicienne de l'âme, mais en disant qu'elle est immortelle. Donc on rajoute de la poudre de perlimpinpin, ce qui me paraît...
La poudre de perlimpinpin, c'est quand même...
Elle est grosse.
C'est quand même important.
Mais alors que moi, je prétends que j'aime beaucoup mieux la vision de Platon qui dit l'âme préexiste, elle est émise par Dieu, elle est parcelle divine, elle s'incarne dans un corps. Et quand le corps meurt, elle se libère de ce corps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement une après-mort, il y a une avant-vie. Pourquoi est-ce que le christianisme a évacué cette avant-vie? C'est parce que cette avant-vie suppose que l'on peut migrer, que l'âme peut changer de corps, passer d'un corps à un autre. Pour moi, c'est une évidence. Évidence, je suis forcément, on est forcément voilà, d'accord
ça
là-dessus.
Ça commence fort, hein, je pensais arriver à ça après.
Mais attention, voilà, je fais un bémol très important, parce que j'ai beaucoup étudié les religions orientales. Et si vous voulez, pour un Indien, la réincarnation, c'est un truc obligatoire. Parce que c'est on évident. Tourne en rond, on fait le samsara, et tant qu'on tourne en rond, on revient au point de départ, et on repart pour un tour. Ce qui fait qu'à d'ailleurs qu'un Indien, quand il meurt, c'est épouvantable, parce qu'il dit « je vais encore faire un tour et un énième ». Moi, je crois beaucoup plus à la migration des âmes, c'est-à-dire au choix. Quand on va parler des NDE, on va parler des EMI, des gens qui sont de l'autre côté, ils ont le choix de revenir ou pas.
On pourrait croire, de ce que vous dites, qu'il y a donc une séparation. De fait, une fois que, avant la vie, et en tout cas après la mort, une séparation qui se fait entre l'âme et le corps. Et c'est là que commencent les difficultés. C'est-à-dire, est-ce que les deux choses sont inséparables ou est-ce que, effectivement, on peut penser le corps séparément de l'âme? Et très il semblerait, Patrick Tellier, que vous disiez non. qu'on ne peut pas les penser non. séparément. Non. Et c'est peut-être d'ailleurs ça qui fait la différence entre votre conception et celle de François.
Pour moi, l'âme, c'est l'âme d'un corps, et j'irais plus que d'un corps, d'une personne, qui anime un corps, bien sûr, du début à la fin. Mais avant, moi, je ne vois pas pourquoi il y aurait une âme, mais alors une âme quoi cosmique, une âme oui. générale, une âme... pour moi, c'est Dieu qui donne à chaque personne l'âme qui va lui permettre d'avoir une vie originale et originelle. Et l'âme va être l'âme d'un corps unique et restera l'âme d'un corps unique. Et après la mort, l'âme restera ce qu'a été l'histoire de cette personne avec son corps. Et quand il y aura la résurrection des corps, c'est cette même âme, et pas une autre, qui sera là, qui est complètement spirituelle, alors qu'avant, elle est divisée entre le matériel et le spirituel. Quand on est sur Terre, on est toujours divisé. Là, elle est totalement spirituelle, et elle va faire que nous allons retrouver un corps complètement spirituel. Voilà.
Alors, je suis en désaccord très fondamental, mais sympathique, hein, parce que j'ai cru ce que vous dites, et aujourd'hui, ça colle pas. Ce qui colle pas du tout, c'est la résurrection des corps. C'est, si vous voulez, c'est la résurrection de la chair.
Attendez, la chair, c'est pas, on va pas ressusciter oui. avec nos lunettes et nos molécules.
Non, mais pourquoi pas regarder les trucs plus simplement? Je pense que la promesse de Jésus et que même son témoignage, qui est le plus important dans le témoignage du Christ, auquel je crois, c'est la résurrection.
Oui.
Et c'est qu'on est ressuscité. Et lui, il est ressuscité le troisième jour. On n'a jamais compris pourquoi c'est le troisième jour, parce que c'est le deuxième jour, en fait. Il se passe 48 heures, grosso modo. Enfin, peu importe. On va pas pinailler, hein. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'il nous promet, c'est qu'on ressuscite dans un corps de lumière. Donc le corps, notre corps d'âme, celui que l'on voit quand on fait une expérience de mort imminente, on voit des corps, on voit des vrais corps. Il y a un corps spirituel. Donc, on est ressuscité tout de suite. C'est pas si on veut bien.
Si oui, peut-être pas complètement. Peut-être pas forcément complètement. Je pense qu'à la résurrection finale, ça ira quand même plus loin. Notre résurrection.
Pourquoi on attend la fin des temps? Qu'est-ce qu'on va se casser les pieds? C'est épouvantable.
S'il vous plaît, c'est incroyable. C'est la première fois que dans cette émission, nous avons une discussion aussi animée.
Mais, c'est passionnant, voilà.
Donc c'est une affaire, en tout cas, de conviction personnelle. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons des témoignages de gens qui ont vécu ce que l'on appelle une mort clinique. Et alors, peut-être, docteur Tellier, vous allez nous expliquer la différence entre une mort clinique, une mort biologique et une mort métaphysique.
Exactement.
Qui est évidemment un point déjà très important. Et après, on parlera de ces expériences.
La mort n'est pas quelque chose d'instantané comme ça. C'est vrai qu'au début, il y a donc l'arrêt du cœur, qui est le premier signe extérieur de mort. Mais le cerveau peut encore survivre un petit temps, pas longtemps, mais il est certain que quand le cerveau n'est plus irrigué, là, à ce moment-là, on a une mort cérébrale. Bon, ça, c'est la mort clinique reconnue par les médecins. Et puis, en fait, à ce moment-là, l'âme n'est pas forcément encore séparée du corps. Il y a un temps nécessaire pour qu'elle se sépare. Et c'est à un moment donné, l'âme va se séparer du corps. Et là, on parlera de mort métaphysique ou ontologique. Et à partir de là, le corps va devenir un cadavre. Et donc là, on rentre dans la mort biologique, d'une certaine façon. Voilà, donc c'est trois morts qui sont dans des temps un peu successifs. La médecine actuellement prend en considération la mort cérébrale. Avant, on ne parlait que de la mort cardiaque, maintenant c'est la mort cérébrale. La théologie parle de la mort métaphysique. Et puis nous, quand on voit un cadavre, c'est la mort biologique. Et alors, les expériences de mort imminente se situent entre la mort clinique et la mort ontologique. L'expérience de mort imminente, ce n'est pas une résurrection, c'est une réanimation. On est vraiment à l'antichambre.
Oui, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu quelqu'un qui soit mort depuis 3-4 jours et qui d'un coup soit réanimé et qui ait une expérience de mort imminente,
Le seul exemple, c'est celui de Lazare dans les évangiles, puisqu'il sentait déjà.
Oui.
Donc, la mort biologique était réelle.
Oui.
Mais alors là, c'est un miracle du Christ.
Là, on n'est pas dans les expériences. Oui, puis on n'est plus dans les expériences qui ont été comment constatées.
Absolument pas. Non, voilà. Mais quand même, on dit qu'ils sentaient déjà.
Oui, ça c'est vrai que c'est intéressant qu'on donne le détail.
On donne le détail, donc c'est précis.
Oui. Alors donc, ces expériences de mort imminente, elles sont maintenant répertoriées par des scientifiques qui ne sont pas nécessairement des croyants, ça c'est très important. C'est vrai qu'ici, on a affaire à deux personnes, même si elles ne sont pas d'accord, qui sont quand même, qui croient dans l'âme, qui croient dans le fait que l'âme survit, sous une forme ou sous une autre, à la mort clinique, donc à la mort du corps. Mais ce qui est intéressant dans ces expériences de MI, c'est que ce sont... La plupart du temps, d'ailleurs, les premiers médecins qui se sont intéressés à ces questions n'étaient pas nécessairement des gens qui voulaient prouver quoi que ce soit sur la
mortalité. Mais non, ils n'ont fait que des constatations, ils se sont rendus compte. Ça ne date que des années, fin des années 60, parce qu'avant, on n'avait pas beaucoup de réanimation cardiaque. Et à partir des années 70, il y en a eu de plus en plus, on est de plus en plus compétents pour réanimer des gens décédés sur le plan cardiaque. Et donc, on en a eu de plus en plus de ces EMI. Mmh. Et les premiers médecins n'ont fait que constater, d'où ça vient, comment ça se fait. Enfin, c'était la surprise. Donc, le docteur Moody a fait son premier livre en 75 en France, enfin traduit en France en 75. Et puis, il y en a eu d'autres. Kenneth Ring a fait un travail très intéressant sur le plan scientifique. Et maintenant, on a un site internet où on peut NERDF, où on peut donner son témoignage. Et il y a une centaine de questions à répondre. Pour être sûr que la personne ne raconte pas des carabistouilles. Et donc, on en a de plus en plus. Et pour moi, je trouve que c'est un signe pour nous aujourd'hui très important. Et c'est un signe qui vient pas de l'Église, qui vient pas des curés, comme on a tendance à dire. Moi, j'ai déjà entendu quand je parlais des miracles. Oh oui, les miracles à Lourdes, c'est inventé pour faire venir du monde. Non. Là, ça vient de la société civile, finalement. C'est ça qui est assez étonnant. Et ça vient donc de gens qui, au départ, ne cherchaient pas à convaincre en quoi que ce soit. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui avaient vécu ces expériences-là. Et j'ai chaque fois été très impressionné. Parce que il y a un accent de sincérité tel qu'on ne peut pas mettre en question ce qu'ils disent. Et depuis que j'ai écrit ce livre... Il est sorti il y a un mois. J'ai fait des dédicaces et j'ai eu encore des tas de témoignages extraordinaires. Oui. Des gens qui n'osaient pas en parler, surtout dans le milieu catholique.
C'est des sujets sur lesquels l'Église marche encore sur des œufs.
Je comprends, oui.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, François Deville.
C'est ça le problème.
Et les scientifiques matérialistes et les religieux ont tendance à ne pas vouloir trop s'approcher de ce domaine. Mais vous l'expliquez bien.
Oui, et je pense que le docteur Tellier sera d'accord avec moi. L'Église veut pas donner l'impression qu'elle croit à tous les miracles, parce que si mes statistiques sont exactes, il y a eu 7000 guérisons à Lourdes, vous connaissez bien le sujet, il y en a 69 qui sont reconnues, donc 1%. Parce que l'Église, elle a peur des rationalistes, d'une certaine manière, donc c'est un peu dommage d'ailleurs. Et du coup, la communication avec l'au-delà... Et moi, je suis entièrement d'accord avec vous, docteur, là-dessus. C'est que il y a tellement de gens de bonne foi, des gens mais ordinaires. Qu'est-ce qu'ils ont à faire, à prouver, à vouloir démontrer que leur communication existe? Non. Aujourd'hui, ils sont libérés parce qu'il y a quand même des gens qui les écoutent. C'est là où on voit que c'est un phénomène massif, la communication avec l'au-delà. Or, c'est un sujet sur lequel l'Église reste très réservée. Alors, il y a un cardinal, un jour, il y a une quinzaine d'années, qui a fait un petit texte en disant qu'on pouvait y aller, à condition de le faire de manière très rigoureuse et tout ça. Mais ce n'est pas la doctrine exacte de l'Église qui pour le moment, est très réservée.
Prudente, très prudente.
Pour une raison qui est un peu regrettable aussi, c'est que c'est le diable.
Je voudrais revenir sur la question des EMI. Là, à nouveau, on part sur l'Église, alors que c'est pas le sujet.
Non.
Ce qui m'intéresse, c'est que vous montrez dans votre livre, François De Witte, que en fait, aux États-Unis, c'est un sujet qui est beaucoup moins tabou. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on a créé des centres même pour recueillir justement toutes ces données, pour les étudier. À quoi attribuez-vous ? C'est pas parce que la France est catholique, parce qu'elle ne l'est plus guère, qu'on s'intéresse pas à ces questions. À quoi attribuez-vous la frilosité des Français, la réserve qu'ont les Français face à justement à ce genre de phénomène ?
Je veux dire, moi, je pense que c'est un peu le même phénomène qui explique pourquoi Freud est très respecté en France et pourquoi on s'occupe pas de Jung. c'est peut-être les deux grands monuments, je dirais, de la psychanalyse. Encore que Jung n'avait pas le droit d'utiliser le terme qui appartenait à Freud, enfin, bref. Nous, on est tout ce qui peut expliquer tout par le cerveau, eh bien, ça rassure les Français. Nous sommes probablement le peuple le plus rationaliste du monde. Je dirais, les sujets dont on parle, comme justement l'expérience de mort imminente, ces sujets-là font pas la une des journaux. Des journaux à grande diffusion. Ni la limite de la radio, de la télévision, etc. On est un peu gêné aux entournures parce qu'on se dit, est-ce que c'est du lard ou du cochon? Est-ce que c'est faux? Alors c'est pour ça que c'est merveilleux d'avoir des gens comme Dr. Tilly, encore une fois, qui en parlent, parce que ça ouvre un peu la porte, vous comprenez? Et je crois que, si vous voulez, il y a une frilosité générale qui est très particulière à la France.
Je crois que les Américains ont moins de tabous que nous aussi à ce niveau-là. Oui. Et puis, nous sommes très rationalistes, très cartésiens, et le paradigme officiel aujourd'hui dans la science, parce qu'on est encore très scientiste en France, c'est que la conscience ne peut pas perdurer en dehors du cerveau. Pour le paradigme officiel, c'est le cerveau qui produit la pensée. Or, voilà que des gens ont une activité cérébrale nulle, qu'ils ont une pensée et en plus une mémoire de ce qui leur est arrivé. Donc, ça remet en question le paradigme officiel. Alors ça, c'est insupportable.
France Culture, Les Racines du Ciel, Lélie Onvar. Vous citez, Patrick Tellier, le cas de gens qui, par exemple, sont aveugles, mais qui, quand ils font une expérience de mort imminente, eh bien, ils voient. Donc, il se passe des choses très étonnantes au niveau de la perception, alors que le cerveau lui-même n'a même plus les capacités, puisqu'un aveugle dans la...
Ne peut pas imaginer ce que c'est que
ne peut pas imaginer ce que c'est que la vision.
Ne peut pas l'imaginer. Donc, ça lui arrive sans qu'il comprenne lui-même. Et c'est ça qui est d'ailleurs l'originalité des EMI, c'est qu'on ne peut pas les provoquer. C'est impossible. Alors ça, la science aussi, elle déteste ça. On ne peut pas faire d'expérience, finalement.
Oui.
Alors, le mot expérience est un peu gênant, mais on ne peut pas faire d'expérience. Donc, ça nous arrive, ça nous est donné. Et d'ailleurs, il n'y a que 20% des gens qui font des EMI. Moi j'ai quand même connu plusieurs personnes qui sont mortes devant moi à l'hôpital ou ailleurs, que j'ai essayé de réanimer, que j'ai pu réanimer une fois ou deux, et qui n'ont qu'un souvenir.
Oui, c'est pas systématique.
Donc, ce n'est pas systématique. Pourquoi ? Alors là, c'est un mystère. Pourquoi ça arrive à certains et pas à d'autres ? Je ne sais pas.
Bon. Et alors, vous parlez tous les deux du fait qu'il y a des points communs. C'est-à-dire qu'évidemment, dans ces expériences de mort imminente, où vous dites d'ailleurs à François de Witt que vous préférez le mot de mort provisoire, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas imminente.
Oui,
en réalité,
oui,
il y a une vraie mort,
ça.
Et
oui,
puis après, on revient sur
ou même aux frontières de la mort.
Aux
parce qu'on n'est
voilà.
pas tout à fait. Ça, c'est l'expression
oui.
du père Brune, genre.
Oui, oui, il a raison. Oui.
C'est une bonne expression, parce qu'on n'y est pas.
Oui,
on n'est pas mort.
On est à la limite.
On est entre les deux. Alors, justement, ces gens qui sont allés ou qui ont vécu ce genre d'expérience, pour être le plus neutre possible, ils ont évidemment parfois des visions divergentes, puisque selon leur culture, selon leur façon d'être, mais néanmoins, il y a des points communs qui ne dépendent pas ni de l'âge, puisque même des enfants font des expériences semblables. Mm-hmm. Donc eux, ils ne sont pas autant pétris, évidemment, de culture quand ils ont 4 ou 5 ans. et aussi qui dépendent absolument pas de la culture, de la croyance ou pas croyance des gens, de la couleur de leur peau, de leur de l'endroit où ils ont vécu, s'ils sont riches ou pauvres. Donc il y a vraiment des constantes. Est-ce que vous pouvez nous donner ces quelques constantes qui, à mon sens, sont peut-être la chose la plus frappante dans cette dans ces expériences de mort imminente.
Tous les deux, François de Vitry, il y a une douzaine de points qu'on retrouve parce qu'on retrouve pas les mêmes. Mais disons, il y a aussi, il y a d'abord le fait que c'est une expérience ineffable, quelque chose de très difficile à décrire. Ils ont toujours du mal à décrire. Il y a le fait que l'on rencontre des êtres de lumière et des personnes défuntes. Toujours des morts. Très curieux pour les rationalistes. Comment se fait-il qu'on rencontre pas son voisin de palier, sa femme, son chien, etc.? Non, jamais. On rencontre que des personnes qui sont passées de l'autre côté. Il y a aussi
qu'on a connu ou qu'on n'a pas connu.
Et souvent oui, mais on découvre qu'on les connaissait, qu'elles avaient fait partie de la vie, etc. Il y a en principe souvent il y a un tunnel. On va prendre un grand tunnel qui se termine par une lumière éclatante dans laquelle on va et une musique extraordinaire, quelque chose qui est là aussi du domaine de l'ineffable. Il y a la revue de vie souvent, c'est-à-dire qu'on passe sa vie en revue très rapidement. Il y a aussi de mémoire vous.
Cette lumière est représentée par un être. C'est là que c'est extraordinaire. C'est que les gens qui reviennent disent c'est une personne que j'ai rencontrée. C'est pas simplement un halo magnifique. Il y avait quelqu'un qui m'a aimé d'une façon tellement indicible que je ne peux pas l'oublier. Et moi, ce qui me frappe le plus,
c'est l'amour.
C'est l'amour avec un grand A complet. Et ce qui me frappe
nous
le plus,
nous venons d'un monde d'amour.
C'est que ces gens-là, quand ils reviennent, cet amour, ils ne pouvant en l'oublier, ils ont envie de le distribuer autour d'eux.
Ouais.
Et ils ont un surcroît de vie et d'amour des autres qui est quand même surprenant.
Et ça rejoint, si vous permettez, ma conviction, c'est qu'effectivement, notre âme, début de notre conversation, a un projet. C'est-à-dire que notre âme, étant d'essence divine, elle a un projet de nature divine et de nature d'amour. Il y a d'ailleurs un auteur qui a repéré ce qu'il appelle 32 vertus divines. Et on vient dans la vie pour témoigner de telle ou telle ou plusieurs de ces vertus. Je trouve que cette idée-là est très belle. Elle me plaît, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Moi, je pense qu'il rentre en contact avec l'amour avec un grand A. Je l'ai pas dans mon livre parce que je l'ai trouvé depuis une citation du curé d'Ars, Jean-Marie Vianney, qui dit « S'il n'y avait rien de l'autre côté, je serais bien attrapé, comme il dit. Mais je ne regretterais jamais d'avoir cru en l'amour avec un grand A. » Et je crois que ces personnes qui ont vu l'invisible et touché l'amour, reviennent avec une vision complètement différente du monde. Et alors, le plus étonnant d'ailleurs, c'est que pour un certain nombre d'entre elles vont guérir de la maladie a provoqué la mort.
Oui, c'est ça. Ce qui est frappant, c'est qu'ils sont transformés et physiquement et spirituellement. Ils ne sont plus les mêmes. Ils ne sont plus les mêmes.
Ils sont transformés émotivement, je dirais, parce que déjà, c'est très, très particulier. Intellectuellement, quelquefois, parce que certains découvrent des choses qu'ils n'avaient jamais compris avant. Moi, j'ai l'histoire d'un ouvrier qui a découvert la physique quantique. Après, il y a une transformation spirituelle très claire et, cerise sur le gâteau, éventuellement une transformation physique.
Alors, vous avez parlé d'amour et vous citez, Patrick Tellier, un très très beau texte de Jean de la Croix. Ce qui se passe de l'autre côté, quand tout pour moi aura basculé dans l'éternité, je ne le sais pas. C'est quand même Saint Jean de la Croix qui parle. Il dit je ne le sais pas. Et peut-être que c'est une très grande leçon pour nous.
D'humilité.
Exactement. Donc ce qui se passe de l'autre côté, quand tout pour moi aura basculé dans l'éternité, je ne le sais pas. Je crois seulement qu'un grand amour m'attend. Je sais pourtant qu'alors, pauvre et dépouillé, je laisserai Dieu peser le poids de ma vie. Mais ne pensez pas que je désespère. Non, je crois. Je crois tellement qu'un grand amour m'attend. Maintenant que mon heure est proche, que la voix de l'éternité m'invite à franchir le mur, ce que j'ai cru, je le croirai plus fort au pas de la mort. C'est vers un amour que je marche en m'en allant. C'est vers son amour que je tends les bras. C'est dans la vie que je descends doucement. Si je meurs, ne pleurez pas. C'est un amour qui me prend paisiblement. Si j'ai peur, et pourquoi pas, rappelez-moi souvent, simplement, qu'un amour m'attend. Mon Rédempteur va m'ouvrir la porte de la joie, de sa lumière. Oui, Père, Voici que je viens vers toi comme un enfant. Je viens me jeter dans ton amour qui m'attend. Évidemment, on reste un peu sans voix. C'est difficile de rebondir sur un tel texte, mais je voudrais, à partir de cela, que l'on parle de la double utilité de parler de ces expériences de mort imminente. La première, au fond, c'est pour que nous n'ayons plus peur de la mort. Donc la première utilité de cela, c'est que quand on lit cela, si on y adhère, si on arrive à y croire, on se dit donc, ce n'est pas une affaire si grave. Finalement, c'est peut-être pas si mal d'aller de l'autre côté.
Et en même temps, ceux qui ont vécu ça ont horreur du suicide. Hein. Ils ne peuvent même pas l'imaginer.
Bien sûr, parce que souvent, ils disent qu'en fait, les suicidés n'ont pas une situation aussi lumineuse. Mais voilà, donc c'est d'un côté pour ceux... pour nous, qui aurions peur de mourir, évidemment. Et de l'autre, et ça, le docteur Charbonnier, qui a écrit plusieurs livres sur ce sujet, en parle souvent, c'est que ça, c'est aussi peut-être quelque chose qui peut aider ceux qui sont frappés par un deuil. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Bien sûr, ceux qui sont frappés par un deuil, de se dire, évidemment, que le deuil, de toute façon, la séparation et le quelqu'un qui est fauché et qui part, c'est toujours un chagrin. Mais néanmoins, ça peut permettre, peut-être, dans ce travail de deuil, de regarder la mort autrement. François De Witt, peut-être.
Moi, je pense qu'effectivement, ce qui est... parce que là, on va peut-être élargir le sujet à partir des EMI, parce que l'EMI est une expérience personnelle. Il y a aussi beaucoup d'expériences qui sont de relations avec l'autre côté, si je puis dire. Aujourd'hui, et je prends l'exemple, nous parlions du père Brune qui a fait beaucoup de transcommunication instrumentale, c'est-à-dire on arrive à communiquer par la radio, par la télé. Et la radio, d'ailleurs, le pape Pie XII était tout à fait émerveillé par ce genre de communication. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui pratiquent, et j'en ai rencontré plusieurs, et je l'ai même fait moi-même, qui pratiquent ce qu'on appelle l'écriture automatique, c'est-à-dire vous mettez dans une position tout à fait un peu singulière, disons, de recueillement, et vous laissez courir, non pas, ça va pas être vos doigts qui vont écrire, mais c'est plutôt le bras entier, et quelqu'un va communiquer par cet intermédiaire. Et il y a des gens qui écrivent des livres absolument magnifiques en écriture automatique. Et des gens, encore une fois, on leur disait des gens simples, des gens ordinaires. Le troisième type d'expérience, ce sont les expériences avec les channels ou les médiums qui, en fait, aujourd'hui, je dirais, les médiums au 19e siècle étaient très à la mode et on a découvert qu'il y en avait pas mal qui trichaient.
Oui, c'est donc ça le problème.
C'est terrible, ça a flingué, ça a tué cette recherche du surnaturel qu'il y avait à l'époque parce que il y a eu un doute. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médiums vraiment très intéressants. Il se trouve que j'en connais un, et j'en parle assez longuement dans le livre, qui est une espèce de groupe d'esprit ou d'âme, si je puis dire, et avec qui je communique et qui me donne beaucoup d'informations, beaucoup de pistes. Tiens, vous devriez étudier ceci, vous devriez aller dans telle direction. Et je vois que chaque fois qu'il me donne une piste, c'est toujours très, très intéressant. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai aucun doute personnel sur l'existence de ce groupe d'âmes avec lesquels je communique via un chat. C'est pas moi qui les fabrique, c'est pas le channel non plus qui est complètement débranché pendant l'expérience et qui connaît rien à la mécanique quantique, moi qui m'intéresse beaucoup, et au trou de ver de Monsieur Einstein. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'en dehors des EMI, il y a tout aujourd'hui une floraison d'expériences qui vont dans la même direction. Cette direction, c'est de nous montrer qu'il y a un monde autre que le monde physique, un monde beaucoup plus vaste avec lequel nous pouvons communiquer de manière... Comme dit effectivement Patrick Tellier, c'est pas automatique, ça marche pas à tous les coups, mais on peut y accéder. Et je termine juste là-dessus parce que je crois que ce qui est fondamental, ma conviction absolue, c'est que l'existence de ce monde sera prouvée scientifiquement. Mais on est tout près de le prouver. On est parce que et ça passe évidemment par la mécanique quantique, par les champs, un champ d'information. Il y a des gens qui disent Dieu est un champ d'information. Moi, ça me plaît pas trop, mais je pense c'est peut-être bien que c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Et les anges, l'armée des anges, ça existe parce que eux, ils bossent dans ce champ et ils sont repérables par nous. Bon, je vais pas faire des choses trop délirantes, mais ce que je veux dire simplement, c'est que c'est que ce monde astral, cosmique, etc., divin, eh bien, je pense que la science va le trouver. Pourquoi ? Parce que je pense que ce monde obéit à des lois mathématiques. Moi, je suis un matheux. J'étais un obsédé de maths quand j'étais jeune. Et il y a des lois mathématiques qui régissent le monde physique. Eh bien, il y a aussi des lois mathématiques qui régissent le monde spirituel.
Sauf que, effectivement, vous avez tout à fait raison, François De Witte, et vraiment, c'est quelque chose que vous développez dans votre livre, dans Tous Azimuts, presque, hein, où vous parlez de toutes ces expériences que vous avez vous-même faites, vraiment, ouais. Vous avez constaté des choses. Mais en même temps, Patrick Tellier, vous mettez-vous en garde, vous ne récusez pas la véracité de telle expérience, mais dans la lignée de, justement, du père François Brune, vous mettez en garde contre le fait que
Je pense que
c'est très important de le faire aussi. Voilà, exactement. Faut pas trop le rechercher parce que ça peut représenter un danger. Oui. Et si c'est un danger, c'est parce que précisément il y a des forces qui existent là et qui.
Oui. Il y a des entités qu'on ne connaît pas et qui sont très fortes et qui peuvent complètement perturber ces recherches. Et donc moi personnellement, ma conviction, c'est qu'il faut pas les chercher. Et on les reçoit exactement comme les EMI. On les reçoit, c'est donné, tant mieux.
Oui.
Sinon, c'est tout. On n'a pas à aller les chercher.
Et pourtant, vous citez le père François Brune, justement.
Oui, je le cite.
Alors, expliquez-nous d'abord en deux mots qui est François Brune et comment
c'est
il...
C'est un théologien qui est très formé par la spiritualité orientale. Hein.
C'est un puits de culture, disons.
Ah, c'est un puits de culture, sûrement.
Mais
c'est un vrai
chrétien. Hein.
Oui. Pour que l'homme devienne Dieu, c'est son livre le plus important pour moi. Donc, c'est un bon chrétien. Mais d'ailleurs, je le cite, lui-même dit, oui, après tout, faut peut-être pas trop rechercher. Et moi, personnellement, j'en suis convaincu. Je crois que, voilà, ça nous est donné. C'est une action de grâce à ce moment-là. Mais je me méfie énormément de toutes ces expériences de channeling et autres.
Oui.
Je suis désolé, mais je ne le conseillerais à personne. Voilà, je voudrais donner un petit témoignage que j'ai eu dernièrement, justement, en faisant des dédicaces. Une dame me dit, bah, vous savez, moi, je vais vous dire, j'ai fait deux expériences. La première, c'est à 31 ans, je suis morte, j'ai fait une péritonite et je suis monté au plafond. Hein, donc, expérience de sortie du corps. Et je me suis rendu compte qu'il s'animait autour de moi, qu'il voyait bien que j'étais morte. Et au retour, quand j'ai retrouvé la vie, j'ai dit à l'infirmière, bah, écoutez, vous avez eu du mal avec moi, hein, vous avez failli me perdre. L'infirmière me dit, mais non, madame, tout s'est très bien passé. Ah, elle dit, attendez, moi, je vous ai bien vu. Et d'ailleurs, je peux vous dire, le chirurgien a un gros bouton sur le cou derrière le cou. Alors là, l'infirmière, elle n'en revenait pas, mais elle dit, comment vous avez pu deviner ça? Bon, donc elle a été vraiment surprise. Et après, elle me dit, j'ai vécu quelque chose d'autre, de plus dur, c'est que j'avais un enfant de 4 ans qui a été poussé par un autre enfant dans une douve, dans un château, que j'ai ramassé mort. Et elle dit, à ce moment-là, j'ai vu des anges monter au ciel de lui. Des anges qui montaient, qui descendaient, avec une musique céleste, elle me dit, que je n'entendrais plus jamais, tellement elle était belle sur Terre. C'est une dame âgée, hein, c'était très ancien. Mais voilà, ce qui montre bien que, voilà, elle l'a reçue, elle en témoigne, tant mieux, je dirais c'est bien. Mais après, elle n'a pas cherché à avoir des contacts avec son fils mort. Bon, voilà, il est de l'autre côté, il est dans la béatitude éternelle, tant mieux. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que cette vie éternelle qui nous attend, on peut la vivre ici. En fait, c'est ça l'intérêt. Parce que si on dit, bon, mais moi, je voudrais vivre la vie éternelle plus tard, j'attends de mourir pour vivre la vie éternelle. Non. En fait, aujourd'hui, dans l'instant présent, on peut vivre en plénitude. Et c'est ça la vie éternelle. C'est pas d'attendre plus tard, c'est maintenant. Et les expérienceurs, comment dire, ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente, nous en donne un témoignage. De même, je le mets dans mon livre, les guéris miraculés, moi, ils m'ont tous impressionné parce qu'ils ont une vie en plénitude. Et comme les mystiques, hein, ils ont une vie extraordinaire. Ils nous en apprennent tous les jours. Donc voilà, moi, je pense que ça suffit. Se dire, bon, il y a une éternité, il y a une vie après, une vie qui est invisible, mais cette vie-là, je peux la vivre aujourd'hui si je suis en accord avec le ciel, avec ce en quoi je crois, c'est-à-dire un Dieu qui m'aime.
Oui, mais en même temps, c'est vrai que vous, vous dites quand c'est donné, c'est bien. Vous l'avez, visiblement, même si vous avez une expérience de foi, en tout cas. Mais c'est vrai, François de Witte, que dans votre livre, ce que vous essayez de faire, sinon de convaincre les sceptiques, parce que je suis pas sûre que les sceptiques, d'ailleurs, lisent ce genre de livre. c'est quand même d'essayer, en tout cas, pour ceux qui auraient un doute ou qui se poseraient des questions, c'est vrai que les expériences que vous rapportez, qui datent depuis Platon, en fait, depuis Platon jusqu'à nos jours, peuvent aussi être une expérience de pensée. C'est pas seulement, c'est pas forcément une invitation, et je ne voudrais pas que ce soit une invitation à ce que les gens se mettent à faire tourner les tables ou à faire du channeling. Évidemment. Mais je pense que c'est un témoignage qui est intéressant dans le sens où ça amène peut-être pour quelqu'un qui se poserait des questions à se dire, tiens, effectivement, il y a peut-être de l'invisible. Peut-être aussi ce que j'ai vécu parfois ou, voilà, que j'ai ressenti quelquefois, ça correspond au fond à cette vibration de l'invisible à laquelle, évidemment, chacun est invité à s'ouvrir s'il le souhaite. François Absolument. De
Witte. Oui, si vous voulez, c'est très intéressant parce que je pense que, Dr. Tellier, vous prenez cette expérience, notamment les EMI, comme une grâce, enfin, un don.
Un don.
Pour moi, c'est un signe. Vous voyez, je le vois
un peu.
Un signe, si vous voulez, très important. Les signes se multiplient aujourd'hui, les signes qu'il y a autre chose, si vous voulez. Donc, pour moi, le monde spirituel veut nous ouvrir les portes de plus en plus. Donc, il nous donne plein d'informations, plein de trucs, plein de manières de communication qui fait pour nous aider à croire. Parce que, si vous voulez, imaginez que l'humanité... Imaginez que tout le monde, que ceux qui nous écoutent, que ceux qui sont en France, dans le monde entier, se disent « j'ai une âme ». Cette âme est quelque chose de divin, est quelque chose d'unique, de spécial. Que ce soit juste une âme qui tourne ou une âme qui tourne pas, on s'en fiche. J'ai quelque chose, on s'en fiche. Et j'ai ça. Et cette âme, elle est là pour donner de l'amour. Parce que c'est ça que d'où elle vient et où elle va, c'est un règne d'amour. Ben, peut-être qu'on ne ferait pas la guerre. On n'essaierait pas de se détruire. Peut-être qu'on serait beaucoup plus ouvert les uns vis-à-vis des autres. Peut-être qu'on serait beaucoup plus humain. Et comme vous dites très très justement, la vie éternelle, elle peut se faire ici-bas. Mais si vous voulez, l'humanité a besoin de s'ouvrir à ça. C'est pour ça que moi, je suis tellement dans mon sujet sur l'âme, parce que j'ai découvert moi-même, en écrivant ce livre, à quel point c'était important, à quel point c'était justement quelque chose, un rayonnement qu'on nous donnait, un cadeau qu'on nous faisait pour nous faire avancer et pour qu'on arrête de se déchirer.
Et je suis bien heureuse, donc, que la question de l'amour vous mette d'accord. Vous vouliez ajouter quelque chose, Patrick?
Oui, moi, je voudrais donner une expérience personnelle, parce que finalement, pour moi, si on veut résumer ces EMI, c'est la rencontre avec un être d'amour, hein, un être plein d'amour.
Absolument.
Est-ce qu'on peut faire cette expérience ici sur Terre sans mourir? Ben, moi, je dis oui. Et je l'ai faite. Parce que je pense que je peux dire, hein, c'était le 1er novembre 1974, j'ai fait l'expérience de l'amour de Dieu pour moi avec ma femme. Voilà. On l'a faite. Et ça m'a transformé jusqu'à aujourd'hui. C'était il y a 40 ans. Donc je pense que cette expérience de l'amour de Dieu pour nous, on peut la faire et on doit la faire. Et que,
la
vie chrétienne, la vie chrétienne, c'est justement d'aider les personnes à faire cette expérience. Et c'est ça l'intérêt.
Je crois, François de Witte, que vous avez une expérience d'ailleurs semblable que vous racontez dans le livre.
Oui, disons, moi j'ai une expérience un jour, effectivement, j'ai le sentiment, en sortant de déjeuner avec ma mère, je repars dans ma voiture pour aller à mon bureau, et puis tout d'un coup, je suis dans ma voiture, tout est lumineux, je baigne, c'est magnifique, et je me sens très très, j'ai chaud, j'ai des frissons partout, et j'ai découvert depuis que c'était quand même un message de mon âme, et j'ai un petit message, Dieu t'aime. Et oui, je pense qu'on a important. Tous, on a tous cette, on est tous aimés. Ça, je suis 100% d'accord avec vous. Et alors, si vous voulez, vous avez fait expérience avec votre femme. Moi, je l'ai fait avec mes enfants.
Oui.
Parce que ma femme, j'ai malheureusement divorcé, mais on s'entend très bien. Mais j'ai 4 enfants, et quand je me dis, c'est 4 âmes qui sont venues à leur mère et à moi. Donc, c'est vachement important. Ma femme sera toujours quelqu'un de fondamentale pour moi. Et que ces quatre êtres, ces quatre âmes se sont incarnées dans les quatre corps de mes enfants, moi, il faut que je les aime. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je les aimais pas inconditionnellement. Je les aimais parce que t'as les bonnes notes, parce que t'as une bonne petite amie, parce que tu travailles bien. Et j'ai compris qu'il fallait aimer ses enfants inconditionnellement, de la manière dont nous sommes aimés.
Eh bien, cette émission touche à sa fin. Je trouve que c'est une belle fin que de dire que nous pouvons vivre l'amour ici et maintenant, que même dans la mort, on peut continuer à aimer ceux qui sont partis et que probablement ceux qui sont partis continuent à nous aimer. Merci beaucoup Patrick Tellier et François De Witte d'être venus nous parler de ces sujets qui sont parfois un peu délicats. Mais voilà, je pense que c'était essentiel quand même d'en parler. Je rappelle le titre de vos ouvrages, Patrick Tellier, Expérience de mort imminente, un signe du ciel qui nous ouvre à la vie invisible, aux éditions Artege, et François De Witte, La preuve par l'âme, un polytechnicien démontre notre immortalité, aux éditions Très Daniel. Merci à tous les deux. C'était Les Racines du Ciel. Une émission de Lélie Anvar. La semaine prochaine, nous serons en compagnie de François Angelier qui viendra nous parler de Léon Blois et de sa mystique de la douleur. Et tout de suite, nous retrouvons Frédéric Lenoir pour ses chemins de sagesse.
Nous avons parlé la semaine dernière du stoïcisme et il y a quelque chose que je voudrais ajouter qui va aussi nous permettre d'être en lien avec la thématique de ce jour, à savoir la question de l'immortalité de l'âme. Le stoïcisme, comme beaucoup d'écoles de sagesse de l'Antiquité, croit en l'existence d'un principe immortel à l'intérieur de l'être humain. Alors, tous les courants de sagesse n'y croient pas. Par exemple, Épicure et les épicuriens, Lucrèce à sa suite, pensent qu'il n'y a rien d'immortel en l'être humain, que l'être humain est uniquement constitué d'atomes qui se dissolvent au moment de la mort. Et même, Épicure enseigne que pour être heureux, il vaut mieux ne pas croire en une immortalité possible qui, selon lui, donc est illusoire. Et il pense d'ailleurs que c'est comme ça qu'on se débarrassera de la crainte de la mort. J'en suis pas totalement convaincu. Je pense qu'il est peut-être plus facile de se débarrasser de la crainte de la mort en étant intimement convaincu que la conscience peut survivre et qu'une partie mortelle de l'être humain peut survivre à la mort du corps. Mais c'est le point de vue d'Épicure. Le point de vue des stoïciens est tout autre. Consiste à croire qu'il existe une raison universelle, qu'ils appellent le logos, et que chaque être humain possède une partie du logos, qui est le logos individuel. Donc le logos individuel est une émanation du logos universel, cette intelligence universelle qui gouverne l'univers, et nous faisons tous partie donc de ce logos par notre logos individuel, et que ce logos individuel, c'est ce qui nous donne la raison, c'est ce qui nous donne l'intelligence, c'est ce qui nous distingue des animaux, c'est ce qui fait que nous avons cette conscience possible qui nous permet de philosopher, d'orienter notre vie, de prendre des décisions qui peuvent aller contre nos instincts, contre les penchants de notre nature, qui peuvent nous permettre, par exemple, de décider d'être végétarien et de ne pas manger d'animaux, alors qu'un lion mangera toujours d'autres animaux. Il ne viendra pas végétarien par vertu éthique. Et donc finalement, les stoïciens pensent que cette partie rationnelle, ce logos, est immortelle. C'est-à-dire qu'effectivement, après la dissolution du corps, elle rejoint le logos universel et nous continuons donc d'exister à travers cette partie, cette fine pointe de notre être, qui s'appelle le logos. Et on retrouve quasiment la même idée chez Platon et chez Socrate. Il y a l'existence d'une croyance en l'âme immortelle. Il y a une partie de l'âme qui est mortelle, c'est l'âme psychique, et puis il y a la partie spirituelle de l'âme, la plus élevée, celle qui participe, c'est ce qu'ils appellent le nous, l'intelligence supérieure, qui aussi est appelée à rejoindre le monde finalement du divin. Et on retrouve un passage très clair dans un dialogue socratique où je crois que c'est le Phédon, où, je le dis de mémoire, Socrate va boire la ciguë et ses disciples essayent de l'en dissuader, essayent de faire qu'il puisse échapper à ce destin. Et finalement, Socrate dit non, je préfère boire la ciguë pour être fidèle à mes convictions, rester noble, rester digne, ne pas céder à la peur, Et finalement, c'est ce qui permettra à mon âme, lorsqu'elle sera libérée de ce corps, de pouvoir être dans la joie des âmes bienheureuses. Donc on voit très bien qu'il y a chez Socrate et chez Platon cette conviction qu'une partie de l'âme, la partie la plus noble, la plus élevée, le nous, peut continuer d'exister à travers une vie joyeuse, une vie heureuse dans l'au-delà. Et ces croyances qui habitent tout un certain nombre de courants de sagesse, hein, de philosophes grecs, on va la retrouver bien entendu dans les grands courants de sagesse du monde. Principalement, je vais juste donner deux grands exemples. Dans le monde hindou, il y a la croyance qui ressemble beaucoup au stoïcisme, que le Brahman est le divin impersonnel dont on ne peut rien dire. Et ce Brahman a des émanations qui sont les atmanes individuels. Donc chaque individu est habité par un atman qu'on pourrait appeler le soi ou l'esprit. Et ce soi, c'est notre réalité la plus profonde. Et nous oublions qu'il est là, parce que souvent nous sommes pris dans nos problèmes d'ego, et nous nous identifions à l'ego, et donc, de manière plus radicale, il y a le soi, l'atman, qui est une partie du Brahman, et après la mort, cette partie, cet atman, soit peut rejoindre le Brahman, soit va continuer de transmigrer, de revenir sur Terre dans un autre corps, pour continuer d'évoluer. En fonction du karma, c'est-à-dire en fonction de la loi de causalité, de cause et d'effet, qui fait que toutes les actions que nous posons engendrent des effets, les causes engendrent des effets, jusqu'à la libération finale, qu'on appelle moksha dans l'hindouisme, ce qui correspond à peu près au nirvana bouddhiste. Et la moksha dans l'hindouisme, c'est le fait qu'on a réalisé que nous étions une partie du Brahman et que nous n'étions pas séparés. Notamment dans la grande tradition du Vedanta hindou, qui est la grande tradition de la non-dualité, pour lequel il n'y a pas d'opposition entre l'Atman et le Brahman. Nous sommes une partie du tout. Nous faisons partie de ce divin. Et cette part de nous divine, une fois qu'elle a réalisé qu'elle n'était pas ce corps, qu'elle n'était pas cet ego, qu'elle est sortie de l'illusion, elle peut atteindre la libération, et cette libération fait qu'elle ne va plus se réincarner et elle va être dans le Brahman. Et puis, il y a une autre conception qui va se faire jour plus davantage en Occident, notamment avec le judaïsme tardif et le christianisme primitif. C'est la croyance en la résurrection, qui en fait est une croyance un peu différente. C'est-à-dire que le fond est le même. Il existe toujours une conviction profonde qu'il y a dans l'être humain une âme immortelle. Créé par Dieu. Donc c'est là qu'il peut y avoir une petite différence, c'est qu'il y a une altérité radicale entre un Dieu créateur et sa créature. Mais en même temps, et c'est là que ça se rapproche, cette âme, cet esprit, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, dans le monde judéo-chrétien, et ce sera repris par le monde musulman ensuite, puisque le Coran s'inspirera de ces croyances-là, cette âme est immortelle, et cette âme est aussi une part de Dieu. Et donc, mais une part de Dieu qui est en même temps séparée de lui. C'est une émanation de Dieu, mais ce n'est pas Dieu lui-même. Et donc, il y a cette idée que nous pouvons participer à la vie divine par l'esprit, et que ce qui se passe après la mort, c'est que nous n'allons pas nous réincarner, nous n'allons pas revenir sur Terre, mais notre esprit va continuer son voyage et va vivre un autre état, un autre état d'être, d'une certaine manière, et la mort n'est qu'un passage vers une résurrection, c'est-à-dire une renaissance dans une pleine conscience de ce qu'est Dieu, et c'est ce qu'on appellera la vision béatifique.
Je rappelle que vous pouvez podcaster cette émission pendant un an et la réécouter sur notre site de France Culture pendant 1000 jours. Dans quelques instants, le journal de la rédaction de France Culture. Bon dimanche à tous.